innombrables trolls. Béni soit-il, l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait protecteur de la classe moyenne. C'est sur ses ondes que la vérité surgira et que l'humeur règnera sur les médisances et futiles colères. Gravel dans le retour. Entre spectacle et gros bon sens.
16h37, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour, bienvenue dans le début de votre fin de semaine. Dans quelques instants, la musique reprend ses droits. À partir de 18h, Dan Caron, alias La Légende, ouvre la porte de son garage et à partir de ce moment-là, toute la fin de semaine, la meilleure musique de la business, vous allez l'entendre à Boulevard 102.1, ça commence tôt. En matinée, demain et dimanche, avec le Rock and Chill d'Audrey Pinchot, ça se poursuit avec le Boulevard du Rock. Dans une journée, colosse l'autre. Et en après-midi, on monte le volume puis ça graffine un petit peu plus à partir de 15h. C'est les colosses du rock. Et vous devinerez jamais c'est qui l'animateur. Max Larouche. C'est pas vrai, c'est Colosse, évidemment, qui est avec vous autres en fin de semaine. La pluie cesse ce soir et cette nuit. Avec un minimum de moins 1 degré, généralement nuageux demain, un peu venteux encore une fois, maximum de 6, du soleil dimanche, maximum de 10 degrés. Et la prochaine semaine sera une semaine de pluie, mais une semaine de fonte, parce que les maximums sont relativement élevés, entre 8 et 12 degrés. Pour nous rejoindre, on vous le rappelle, 418-971-1021 par texto, 418-780-1021 par téléphone. Audrey, sur les routes.
Ça s'améliore pas, pas en tout, pour être bien honnête. Là, si vous êtes sur la capitale direction Est en ce moment, entre Henri IV et Laurentienne, c'est toujours aussi lourd. Robert Bourassa, direction Nord, ça se passe entre Wilfrid Amel et la capitale. Henri IV Nord, ralentissement inhabituel, je vous dirais, entre Wilfrid Amel et capitale. Henri IV Sud, ça se passe de Versant Nord au pont. Si vous êtes sur Duplessis Sud, de chemin Sainte-Foy au pont La Porte, c'est pas terminé. Charest, direction Est, ça se concentre à la hauteur de Robert Bourassa. Et sur la rive sud, c'est la fin direction ouest, surtout entre la route du président Kennedy et chemin des îles. Ralentissement à prévoir aussi sur Guillaume Couture, hauteur route du président Kennedy. Ça, c'est depuis quelques jours quand même. Là, il y a des travaux dans le coin. Évidemment, vous voyez autre chose. 418-971-1021. Et peut-être vous avertir qu'il y a des travaux qui font en sorte que lundi et mardi prochain, pont de Québec dans les deux directions, ce sera fermé. En fait, lundi entre 19h et 5h30 AM, le lendemain, mardi entre 21h et 5h30 AM.
Vous vous inquiétez, étant donné qu'il y aura énormément de travaux dans les prochaines semaines. Est-ce que le maire va réussir à se promener en ville? Pas de stress, il part en tournée mondiale. Le trafic, c'est pour nous autres, gang de chanceux. On aura l'opportunité, vraisemblablement, de s'en reparler. 16h40. Ça fait une couple de fois qu'on se dit ce serait donc le fun de parler un peu plus du côté historique de Québec. Puis je pense que vous vous en êtes rendu compte là, dans les dernières années. J'ai comme retrouvé un genre de passion pour l'histoire.
T'avais-tu ça plus jeune?
Oui, beaucoup.
Moi, j'ai jamais eu ça, puis je commence à l'avoir à mon âge.
Puis le fait qu'il y ait une multiplication des documentaires, c'est une raison. L'autre raison, c'est de constater qu'autour de nous autres, on oublie drôlement vite. J'ai eu la chance de faire le podcast des grands événements. La deuxième saison va commencer lundi prochain. On va parler de la tuerie de l'Halloween. Puis en parlant des choses récentes, on a comme réalisé qu'il y a des gens qui sont même pas au courant de ce qui s'est passé à Québec dans les 10 dernières années. Fait que ça a comme ouvert une porte de réflexion. Puis on cherchait quelqu'un pour parler justement d'histoire de la ville de Québec. Puis on m'a attiré vers ces capsules. Puis je sais qu'elle est venue en onde à quelques reprises, puis aujourd'hui, on est très heureux de la recevoir. Elle est géophysicienne, elle est curieuse et elle ne prétend pas être historienne, non. Mais les capsules qu'elle fait sur les réseaux sociaux, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est Micha Hurswill qui est avec nous autres. Salut, Micha.
Bonjour, merci. Bonne fin de semaine, tout le monde.
J'ai pas trop massacré ton nom de famille.
Ça va, ça va. Okay. Mais je tiens à le dire à tout le monde, là, je suis en train de... J'enregistre toutes les fois que je passe en entrevue en quelque part, j'enregistre la manière dont on prononce mon nom, puis un jour, je vais faire...
Une compilation!
Une compilation! Mais tu t'en es bien tiré.
Hurswill?
Oui.
OK, parfait, c'est correct. Je serais pas le pire sur le tête.
Absolument
c'est
pas.
C'est rien que ça que je voulais. D'où ça vient cette passion-là, Micha?
De son nom de famille. Non, c'est pas vrai.
C'était un mélange de bien des affaires, mais ma grand-mère faisait énormément de généalogie. Okay. Mais elle faisait ça enfermée chez elle. Elle sortait jamais, elle me racontait tout le temps des histoires passionnantes, des histoires de Québec. Là. C'était l'histoire de ma famille. Fait que moi, je disais, gars. Viens-t'en. Tu me racontes une histoire du Château Frontenac, on s'en va au Château Frontenac.
Wow.
C'est un peu ça que je fais dans mes vidéos, dans le fond. Aller sur les lieux de petites histoires méconnues, mm-hmm. des petites histoires qui cachent la grande histoire, souvent.
On a parlé d'un de tes vidéos, il y a quoi, une semaine et demie, quand tu as parlé de Madame Thérèse puis de son bar clandestin.
Oui.
Une histoire, mon Dieu, que bien des gens connaissent à Québec et trop de gens ne connaissent pas. Puis on a des auditeurs qui nous avaient écrit pour dire que dans le temps, ils étaient allés dans le fameux bar clandestin de Madame Thérèse.
C'est une vidéo qui avait généré énormément de commentaires et de nostalgie chez les gens. Puis là, d'ailleurs, c'est moi qui ai un backlog de vidéos à faire, là, mais il y a un documentaire qui s'en vient, une documentariste de la région de Québec sur Madame Thérèse.
Wow, ouais.
Je l'ai passé en entrevue, fait que je vais sortir ça bientôt. Puis elle, c'est ça, là, elle a besoin de ressources pour terminer. Ah. Fait que restez à l'affût. Un jour, il y aura un documentaire sur Madame Thérèse.
Aujourd'hui, tu nous parles de sous-marins. C'est quoi? C'est l'invasion des restaurants Subway à Québec au début des années 2000?
Exactement, et on sait qu'ils sont partout.
Oui, oui, oui. ça a poussé vite, ces restos-là. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qui arrive avec les sous-marins?
Ben moi, tout ça a commencé il y a 2-3 mois quand sur YouTube, j'ai eu une pub avec Pierre Bruno qui me disait qu'il y a des sous-marins hanois qui sont prêts à m'être livrés bientôt. Puis là, t'as des belles images du Canada, des drapeaux canadiens qui virevoltent au vent. Puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on essaie de me vendre un sous-marin? Certainement pas moi qui vais acheter un sous-marin. Fouillé, là, j'ai réalisé que Mark Carney, il veut comme...
Il en voulait, lui.
Oui.
12 sous-marins.
12 sous-marins, exactement. Puis là, ben, fait que je me suis mis à... Je regardais ça derrière de ma tête. Puis là, finalement, j'ai trouvé comme des histoires de sous-marins. Mais comme, pourquoi est-ce qu'il y a des sous-marins? Puis pourquoi est-ce qu'on a ces pubs-là, au final?
Ouais.
C'est que, bon, là, on veut acheter 12 sous-marins. Et il y a deux compagnies qui se font la guerre en ce moment pour essayer d'obtenir le contrat du Canada, du gouvernement canadien. Une compagnie coréenne, Hanwha, qu'on voit partout. By the way, ils ne sont pas juste sur YouTube. Ils ont mis des pubs dans des abribus
à
Ottawa. Ils sont partout.
C'est ce genre de lobby qu'ils font?
Je ne saurais pas dire si c'est du lobby, mais en tout cas, c'est une stratégie de relations publiques pour que les gens connaissent le nom puis aient une idée positive de leur compagnie. Et ça marche parce que là, il y a une fille à Québec en ce moment qui passe à la radio puis qui parle d'eux. Fait que je pense que peut-être qu'ils pourraient me donner de l'argent. Je ne sais pas. Non, mais en gros, c'est ça. Ils essaient de bien paraître. Mm-hmm. Puis à côté, tu as aussi une compagnie allemande, ThyssenKrupp, qui, eux, ont une stratégie un peu différente. Là, eux, ils ont annoncé que si le gouvernement canadien leur donnait des contrats, ils allaient engager, par exemple, une compagnie de Montréal pour qu'eux font des simulations, des logiciels de simulation de vol. Ben là, ils pourraient faire des simulations de sous-marins. Donc là, c'est ça. Les deux compagnies essaient d'obtenir le contrat.
Mais là, moi, sous-marin, c'est drôle. Quand je pense à ça, je pense aux Allemands puis à la Deuxième Guerre mondiale. Le Canada a besoin de sous-marins pour quoi faire, au juste? Es-tu allé fouiller un peu dans cette allée-là pour voir c'est quoi le besoin
quoi
en sous-marin
à base,
qu'on peut avoir?
Oui, c'est surprenant. On n'a pas l'habitude, on n'a pas une grosse flotte de sous-marins en ce moment.
Non, nous, c'est plus les brise-glaces pour laisser passer les navires. Fait que tu sais, nos besoins en bateau, habituellement, ou en affaires marines, ça va être plus sur le dessus qu'en dessous.
Exact. Mais c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans la situation où on a aucun sous-marin, puis tout à coup, on se dit comme, hop là, on aurait peut-être besoin de sous-marin. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 1939. C'était le tout début de la Seconde Guerre mondiale. Et là, ça faisait à peine un mois que la guerre venait de commencer. On n'était pas très bien organisé là, en termes de défense maritime. À Québec, il y avait installé là, près de l'Agora. Il y avait, c'est les douanes qui sont là, puis mm-hmm. il y avait installé un gars de la marine. Il y avait
toi,
mis
c'est
deux surveille, canons.
Là.
Ouais. Ouais, c'est ça, surveille, mais je pense pas qu'il prenait ça très au sérieux. Il y avait mis deux canons à Lévis, qui pointaient vers le fleuve, un autre à la pointe de l'île d'Orléans. Puis là, un jour, il y a un télégramme qui passe, qui dit qu'on a vu deux sous-marins à la Malbaie qui se dirigent vers Québec. Et là, tout le monde se met à capoter. Oh mon Dieu! On pensait que la guerre était loin, était sur l'autre continent. Puis là, finalement, il y a deux sous-marins allemands qui s'en viennent vers nous. Là, c'est digne d'un film. Sérieux. À quel point c'est ridicule, tout ça. Donc là, on n'a pas de bateau. On n'a rien.
On a trois canons contre deux sous-marins, c'est ça?
Deux canons qui ne peuvent même pas tirer de nuit. Et les sous-marins, souvent... Ils vont sortir de nuit parce que de nuit, on ne voit plus rien. Puis là, ils sont en plein milieu, ils sortent les canons, puis là, ils peuvent tirer. Nous, nos canons, on ne pouvait même pas se défendre de nuit. Donc là, ils font venir des membres de l'armée du Royal 22e Régiment. Ils arrivent avec des pioches. Qu'est-ce que tu veux faire avec des pioches? On fait venir deux bateaux, mais des bateaux, je veux dire, c'était un remorqueur puis un bateau, je veux dire... Zéro un bateau de guerre.
Rien
ce bateau-là était tellement petit, on ne pouvait même pas mettre de canon dessus. Donc, ils ont mis des gens de la marine marchande, justement des membres du Royal 22e. Sur l'autre bateau, on a fait monter deux petits canons, ils ont mis des poches de sable comme pour essayer de... C'était vraiment...
On y allait homemade, là.
Oui, probablement dans une des sources qui cite ça, ça dit comme une des flottilles les plus ridicules que l'armée canadienne a jamais faite de toute sa vie. La technologie des sonores commence à peine à arriver. On n'est pas équipé, on n'a aucune idée. Ils sont où, ces sous-marins-là? Parce qu'après ça, ça va en dessous de l'eau, puis comme t'essaieras de les, spotter.
Hein? Ben oui.
Et là, je comprends même pas comment c'est possible, mais il y aurait un devin spécialiste des sous-marins qui est venu rencontrer l'armée.
Ça existait, ça,
il est arrivé avec sa carte. Là, il s'est probablement synthétisé avec le channel. Ah, c'est complètement loufoque. C'est synthétisé sur le channel du sous-marin. Comme,
on dirait un épisode d'Austin Powers.
Ouais. Puis là, il y avait un petit pendule, puis il aurait pointé sur une carte, il a dit c'est là que ça se passe. Puis là, tu dis, bah, c'est peut-être comme un illuminé qui s'est pointé, ils ont été polis, ils l'ont laissé faire son truc. Mais non, parce que dans les archives, ça dit que lui faisait un rapport horaire de comme les sous-marins qui s'en venaient.
Voyons
donc là, ça mettait la pression. Fait que là, finalement, on a nos deux bateaux qui sont partis sur le fleuve à essayer d'espérer spotter les sous-marins. Et de nuit, finalement, là, il y a quelqu'un qui a tiré comme un flare, là,
une fusée éclairante.
Une fusée éclairante, exactement. C'était une fausse alerte. Ça s'est mis à tirer partout. Il y a même quelqu'un qui a tiré sur une bouée en pensant que c'était un sous-marin.
Bon.
Finalement, il n'y avait rien. Donc là, c'était la première constatation de « Oh mon Dieu, si les Allemands attaquent, on n'est pas prêt, on n'a rien ».
Et ça a été un wake-up call important parce qu'il y en a eu des attaques dans le fleuve Saint-Laurent. Puis il me semble que ça, on n'en parle pas tant que ça.
Exactement. C'est un pan vraiment méconnu de notre histoire. C'est surprenant, franchement, que les gens ne savent pas qu'il y a eu la bataille du Saint-Laurent et qu'il y a eu des morts et que la Deuxième Guerre mondiale est venue jusqu'à nos portes.
C'est arrivé quand, ça?
C'est arrivé à deux reprises, en 1942 puis en 1944, une deuxième fois. Donc, 350 morts, grosso modo, une vingtaine de bateaux, c'était des bateaux de marchandises. Parce que là, ce qui se passait, c'est que quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, dès l'instant zéro, à la seconde où la Deuxième Guerre mondiale a commencé, il y a tout de suite du ravitaillement des marchandises, des munitions qui venaient d'Amérique puis qui partaient vers la Grande-Bretagne. Puis le fleuve Saint-Laurent, c'est beaucoup par là que ça a passé. Donc, la stratégie allemande, ça a été de dire « On envoie des bateaux dans l'Atlantique. » Bien, pas des bateaux, des sous-marins. On envoie des sous-marins, des U-boats dans l'Atlantique. Et dès qu'il y a des bateaux de marchandises qui passent, on les coule. Et ça, ça a duré les 6 ans de la guerre. Et à un moment donné...
Essentiellement dans l'océan. Moi, je pensais que tous ces affrontements-là avaient eu lieu dans l'océan.
En grande partie dans l'océan, mais à un moment donné, ils sont pas bêtes. C'est bien plus facile d'aller directement à la source, dans la fin de l'entonnoir. Un peu comme le détroit d'Ormuz, c'est bien plus facile d'aller au détroit. Ben, tu t'en vas bloquer directement dans le Saint-Laurent. C'est plus facile de trouver son ou les bateaux que dans plein milieu de l'océan. Donc, c'est ce... Puis, en passant, Hitler, cette stratégie-là, elle n'a pas été improvisée. C'était pensé depuis longtemps. Ils ont même tenté d'acheter Anticosti avant même que la guerre se déclare.
Ah ouais.
C'est pas dit que c'était pour ça, mais je pense qu'il avait déjà
pensé
à leur
affaire. Oui.
Donc voilà, ils ont décidé d'aller directement à la source. Donc deux fois, il y a des sous-marins qui sont rentrés directement dans le Saint-Laurent. À ce moment-là, on était mieux organisés. Donc en 1939, l'armée canadienne était vraiment pas prête, mais vers la fin de la guerre, là, la marine était vraiment une des plus puissantes, bien organisées. Il y a vraiment eu des gros efforts qui ont été faits dans l'Atlantique. Il y a des clôtures ou des filets anti-sous-marins qui étaient dressés dans le coin de la Gaspésie. C'est beaucoup dans le coin de la Gaspésie que tout ça s'est passé. Et puis donc, voilà, il y a eu à plusieurs reprises des attaques. Les sous-marins qui remontaient à la surface démolissaient les bateaux.
Puis là, c'est ce qui se passe dans le monde qui fait que Mike Carney, tout d'un coup, se réveille et veut acheter 12 sous-marins?
Ben, on le sait pas trop. Parce que là, le discours officiel, ils disent que... C'est parce qu'il y a la Russie et la Chine qui se veut menaçante parce que le changement climatique, le Grand Nord est en train de fondre, donc il y a un nouveau passage dans le Nord qui est en train de se libérer, puis c'est un endroit qui est plein de ressources, qui est attractif. Donc, on dit officiellement Russie et la Chine, mais on sait bien que dans les faits, ce qui se passe avec les États-Unis, c'est très menaçant. Et là, l'histoire nous a démontré pour l'instant le Canada, par où on se fait attaquer. Deux fois, les États-Unis ont passé par la voie terrestre traverser la frontière. Ça, on peut pas grand-chose. C'est la plus grande puissance militaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Par contre, par le Saint-Laurent, ben, les Britanniques nous ont déjà attaqués par là, Ensuite, les Allemands nous ont déjà attaqués par là.
C'est une bonne faille, hein?
Oui, c'est une porte d'entrée directe vers le centre du continent. C'est ultra stratégique. C'est pas pour rien que Québec est là. C'est parce que c'est un endroit...